Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
L'équipe de France affronte la Pologne, 8e de finale de Coupe du Monde. Ce sera 16h à suivre en direct en intégralité sur RMC. 11h05 en France. 13h05 au Qatar. On est très heureux d'être avec vous, évidemment, dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Stephen Brun et Jean-Louis Tour, notre grande gueule en direct du Qatar. Dans quelques instants, le bras de fer des GG autour du capitaine Hugo Lloris qui va honorer sa 142e sélection en équipe de France. Il y aura une team légende des Bleus. Oui, forcément, une team pas légende, ce sera notre bras de fer dans quelques instants. 11h30, c'était mieux avant. Le bonbon historique offert tous les dimanches par Christophe Cessieux. Aujourd'hui, il y a 64 ans, quasiment jour pour jour, Raymond Coppa devenait le premier Français de l'histoire Ballon d'Or.
RMC Coupe du Monde 2022.
Allez, on retourne au Qatar pour retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Loïc Braillet. Rebonjour Loïc.
Rebonjour.
À 10h, tu nous donnais la composition probable de Didier Deschamps pour affronter la Pologne. Cette équipe de Pologne qu'il a reconnue d'ailleurs en conférence de presse, nous avons peut-être 1% de chance de passer face à la France, mais on y croit, cette équipe polonaise.
Oui. Exactement, il faut un petit peu rétablir le contexte autour de cette équipe polonaise. C'est historique déjà de se retrouver en huitième de finale. C'est la première fois depuis 1986 que cela arrive pour eux. Ils s'étaient inclinés à l'époque 4-0 face au Brésil. Le quotidien sportif Katowicki Sport fait sa une ce matin en français. Allez les Polonais, peut-on lire sur une photo de Szczęsny qui est le joueur le plus mis en avant ces derniers jours, assez logiquement après ses deux pénaltys arrêtés depuis le début de la compétition. Il incarne parfaitement le bloc défensif qui devrait se dresser face aux Bleus cet après-midi, même si le sélectionneur de la Pologne a dit hier en conférence de presse, je cite, « Nous voulons montrer que nous pouvons aussi jouer. En auront-ils les moyens ? Difficile à croire avec seulement 4 tirs cadrés depuis le début du Mondial. On sent quand même un peu de vexation chez les Polonais après leur non-match contre l'Argentine. En tout cas, il y aura des têtes connues par les amateurs de Ligue 1 dans le 11 polonais avec Glik, l'ancien monégasque en défense centrale, Krikoviak, ancien rémois et parisien au milieu, et Milik, l'attaquant parisien prêté à la Juve aux côtés de l'incontournable Robert Lewandowski, bien sûr.
Merci beaucoup Loïc Braillet, on te retrouve tout au long de la journée dans les différentes éditions pour nous parler de cette rencontre France-Pologne à 16h à suivre en direct en intégralité sur RMC. Les artistes entrent dans l'arène. 142, c'est l'un des chiffres du jour. Aujourd'hui, Hugo Lloris va égaler le record de sélection de Lilian Thuram pour le huitième de finale face à la Pologne. Une longévité exceptionnelle, titulaire indiscutable en équipe de France depuis 13 ans. Hugo Lloris dispute au Qatar sa 4e Coupe du Monde. Il disputera cet après-midi son 17e match du Mondial, égalant les records de Thierry Henry et tiens, d'un certain Fabien Barthez. Oui. Quelle place lui accorder désormais dans l'histoire de notre équipe de France ? Dans le coin gauche, la team légende Sarah Pitkowski, Pascal Duprat. Dans le coin droit, la team pas légende, Christophe Cessieux, Stephen Brun et Jean-Louis Tour. C'est parti pour le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant ?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ?
Et vous êtes extrêmement nombreux depuis ce matin à voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Une tendance se dégage.
Il ne bougera pas.
Assez facilement. Mais on va voir si vous arrivez à grignoter quelques pourcentages. Pour l'instant, après plusieurs milliers de votes, 72% pour la team légende. Bah, vous l'aurez compris, 28% pour la team pas légende. C'est de coutume, la team pas légende, vous êtes derrière, largement derrière. À vous de convaincre votre auditoire. Christophe Cessieux, Jean-Louis Tour et Stephen Brun, j'ai entendu un c'est fou ça de la part de Jean-Louis Tour. Jean-Louis, tu commences. Pourquoi
pas l'écart du sondage, oui, effectivement. En fait, c'est un truc assez subjectif quand même, ce débat sur le mot légende. Chacun a ses critères. Moi, je considère qu'une légende du foot français, il y en a pas tant que ça. C'est vraiment les joueurs exceptionnels. J'ai pas envie de galvauder ce mot. Je trouve que justement, on l'utilise un peu trop à tort et à travers. Pour moi, déjà, les réelles légendes, c'est Zidane, Platini. Après, le cercle est vraiment très fermé. Si vous voulez, on l'élargit un peu, mais pourquoi même quand on l'élargit un peu, peu. Moi, je suis désolé, mais je mets pas Hugo Loris dedans, parce que dans la légende, eh ben, il faut qu'il y ait des moments forts, des moments marquants, des moments qui marquent l'imaginaire, qui rentrent dans la tête des gens. Et je pense qu'il y a plein d'autres joueurs qu'on va citer avant, pour lesquels il y a une action vraiment décisive, un moment vraiment décisif dans la quête d'un titre. Et Hugo Loris, je veux pas non plus enlever ce qu'il a fait en équipe de France. Je pense qu'on n'aurait pas eu les succès des dernières années sans lui, notamment le titre en 2018. Mais le mot légende, pour moi, il est un peu trop haut pour lui.
Ok, vous voulez répondre, la team légende, et après, évidemment, vous allez pouvoir donner vos arguments. Christophe Cessieux et Stéphane Brun. Pascal Duprat, je sens que ça t'énerve.
Je veux bien prendre la parole, mais aussi parce que j'ai hâte d'écouter les arguments de Stéphane et surtout de Christophe. Parce que ça me déçoit complètement.
Les miens, visiblement, ça ne me déçoit pas grand chose.
Bien sûr, Jean-Louis, bien sûr, je vais te répondre, mais j'étais sûr que tu allais aller dans cette direction-là. Voilà, et ça s'entend ce que tu viens de dire. Christophe, dis-moi, rassure-moi, Christophe.
Alors, moi,
c'est parce qu'il est niçois que t'as peur qu'on taxe le chauvinisme.
Mais pas du
c'est
tout.
C'est pour ça que tu dis que c'est pas une légende.
Pas du tout.
Non, mais laissez-moi finir, je vais argumenter. C'est parce qu'il marque, Jean-Louis, c'est parce qu'il marque pas de but. T'as parlé de faits marquants. C'est parce que Loris n'a pas marqué de but avec l'équipe de France. Non, mais il est gardien de but.
Dans l'histoire de l'équipe de France, il y a des gardiens qui passent avant.
Je penche plutôt sur le fait que il est lisse. Ok, c'est parce que il fait pas de vagues, parce qu'il tellement il fait pas de vagues qu'il en désespère les tabloïds anglais. Tellement il est lisse, tellement il est bien élevé. Et c'est sûr que Deschamps il est tranquille avec lui, parce que il assure bien sûr sur le terrain, mais aussi parce que Deschamps il est pas obligé de prendre 10 doliprane par jour, parce que Loris lui file des maux de tête. Non, il est bien élevé, il est respectueux de la hiérarchie. Donc tout ça, ça en fait pas une légende. Il maraboute pas ses coéquipiers. Il participe pas à des tests, des sextapes, ou alors il s'en cache de telle sorte que personne n'en entend parler.
Il est
désespérant.
Il avait bien conduit en état d'ivresse il y a quelques années quand même.
Il faut bien. tu vois, il me fait penser au blond Gad Elmaleh, tu vois. C'est un peu le blond Gad Elmaleh, donc c'est pour ça que il intéresse personne, parce qu'en plus il s'exprime bien, le mec. Tu t'imagines? Dans ce monde de footballeurs, il s'exprime correctement.
Pascal, t'es en train de me dire que savoir faire trois phrases sans faute de français, ça te permet de rentrer dans la légende des Bleus.
Ouais. Non, mais il a 142 sélections en équipe de France. Je l'espère, tu l'espères, tout le monde l'espère. Battu contre l'Angleterre ou le Sénégal très prochainement. Et sans vouloir te t'offusquer, ça suffit pas à ce que tu dises que c'est une légende. Deux capitaines ont soulevé la Coupe du Monde, son sélectionneur et lui.
Ça me suffit pas, Pascal.
Il a été le capitaine de l'équipe de France. Alors qu'est-ce que tu vas faire si d'aventure il en brandit une deuxième de Coupe du Monde. Tu vas dire quoi? C'est rien. Toujours pas une légende.
Joueur exceptionnel.
Félicitations, c'est
pas
tout.
Légende,
bravo.
Parce que moi, comme Jean-Louis, ce mot légende, on est en train de le galvauder. En l'espace de 15 jours, on a déjà fait deux débats. Olivier Giroud, devient-il une légende des Bleus?
On avait fait sur Benzema avant.
Maintenant,
c'est
Hugo Loris, devient-il. Arrêtons un peu avec ce mot légende. N'importe qui rentre dedans.
Mais il bat des records.
Tu peux pas être une légende de l'équipe de France de football quand tu n'es même pas le plus grand gardien de l'équipe de France de football. C'est Fabien Barthez, le plus grand gardien de l'équipe de France de football. Sur ses 42 sélections, si je te dis Hugo Loris, est-ce que tu as un flash d'une action marquante, une image marquante d'Hugo Loris? Non. Fabien Barthez, France-Brésil, 98,
un match
Ronaldo,
contre l'Allemagne.
Il plonge sur Ronaldo, l'arrêt de la frappe sur Ronaldo qui lui colle dans les mains, le petit bisou de Laurent Blanc sur le crâne. Fabien Barthez, tu as des flashs qui viennent automatiquement.
Mais parce que Loris, il est comme le bon arbitre. Il passe presque inaperçu, tellement il est bon, tellement il est précis.
Tu sais quoi, Pascal? Les gens, ils ne peuvent pas admettre Hugo Loris dans la légende de l'équipe de France.
Non, là, tu te trompes, 72% des auditeurs.
Parce que quand on est gardien de Tottenham pendant 11 ans, ça marche pas. Une légende des Bleus, c'est un mec qui joue au Real, qui joue au Barça, qui joue à la Juve, qui joue à United, qui joue au Milan.
Il joue à Tottenham, il a fait une finale de Champions League, malheureusement perdu.
De papa. Tu peux pas être une légende des Bleus quand t'as pas joué dans un club
légendaire. Barthez, Monaco, Marseille, Barthez.
Manchester
Monaco,
Marseille,
donc tu me parles.
United, Fabien Barthez.
Toulouse Manchester aussi, United. Attention, respect.
Oui, mais champion d'Europe avec Marseille, alors que Hugo a été finaliste de la Ligue des Champions. Mais il a une ligne à son palmarès quand même. C'est à part le titre avec l'équipe de France, qui effectivement
c'est une
légende. Tu mets tout dedans. C'est comme la dernière fois on avait le débat sur Benzema. savait que Benzema, ne rentrait pas non plus dans la légende du football français parce qu'il n'avait pas décroché la Coupe du Monde avec l'équipe de France.
Eh bien, moi, j'avais parlé d'exemplarité.
C'est un mélange. Mais c'est un fantastique joueur. Moi, j'adore Hugo Lloris. Mais pour moi, c'est pas une légende. C'est pas parce que tu as battu des records que tu accumules des sélections que tu rentres dans la légende. Pendant des années, qui a été le joueur qui a détenu le plus de sélections avant la grande? C'est un garçon qui s'appelait Roger Marche. Est-ce que Roger Marche était dans la légende? Non, celui qui était dans la légende, c'était Fontaine, c'était Coppa, c'était pas Roger Marche. C'est pas parce que tu accumules les sélections que tu rentres dans la légende. Ça a été un super gardien. Ça a été sans doute pendant une ou deux saisons le meilleur gardien du monde. Mais il s'est pas inscrit dans la durée. Et comme le disait Steve, un garçon comme Barthez, il est plus dans la légende collective, dans l'imagination des gens, iconique, parce que cette Coupe du Monde, c'était la première. Et parce que ce sauvetage au-dessus de la tête de Ronaldo. Mais oui, bien sûr. Parce que autour, il y a eu aussi ce côté sulfureux, parce que cette équipe de 98, rappelez-vous, c'était les fêtes à Saint-Tropez, c'était les top modèles. Hugo, c'est un garçon exemplaire, mais il est trop exemplaire pour être une légende. Les légendes, ils doivent défrayer la chronique.
Parce qu'il a le charisme d'un genre idéal, il ne peut pas rentrer dans la légende.
Dit quelque chose de fracassant, Hugo. C'est toujours nickel.
Il faut procurer des émotions.
Oui, mais vous savez ce que c'est.
Il procure des émotions. Le dernier mondial, il a fait des arrêts exceptionnels.
Les seules émotions qu'il procure, Hugo Lloris, c'est de temps en temps, je fais des siestes. Voilà, ça me permet d'être.
Non, et puis, il y a un autre truc aussi. Pour être une légende aussi, je pense qu'il faut avoir des histoires à raconter autour de la personne. Des trucs comme le mythologique, un peu légendaire. Non, pas forcément, mais on racontera un jour que Barthez, avant la séance de pénalty contre l'Italie, il se marre à deux minutes du truc alors que tout le monde est stressé.
Dites-moi,
on
racontera Zidane, que Thuram, il n'a jamais mis un but dans sa vie.
Bah Zidane, il met deux buts de la tête en finale de Coupe du Monde.
D'accord, c'est un mais il n'a pas de choses à raconter, c'est quelqu'un de lisse.
Mais tu peux, sportivement, tu peux raconter des choses. Le doublé de Thuram, alors qu'il n'a pas marqué un but en demi-finale de Coupe du Monde, ça, c'est des trucs à raconter. Mbappé qui prend de vitesse tout le monde à 17 ans, on le racontera aussi.
Écoute,
tout ça, ça fait sont des histoires légendaires.
En fait,
et avec Lloris, je suis désolé, j'en ai pas raconté.
Jean-Louis, tu veux pas lui conseiller d'aller se mettre en équilibre sur la base cet après-midi à Lloris pour que ce soit une légende?
C'est des trucs sportifs ce que je raconte, c'est des moments marquants, c'est des moments qui ont permis à la France d'aller loin en Coupe du Monde.
Mais ce que veut dire, pour essayer de vous conseiller.
Si le seul argument c'est 142 sélections, je trouve que déjà il y a un problème en fait.
C'est
pas juste sur la longévité, sur le nombre de sélections, c'est que la question se pose en fait.
Ok, vous entendez la cloche, ça veut dire. Je le dis quoi, élégamment ou pas élégamment?
Stop.
Alors élégamment c'est stop, oui t'as raison, ça veut dire stop.
Voilà, et élégamment c'est comment?
Fermez-la. Chalef. 142 sélections pour Hugo Lloris, et si j'ai bien compris, on parle aussi de l'aspérité. Alors Lilian Thuram, 142 sélections, peut-être plus dans la légende parce qu'il y a ce doublé face à la Croatie, donc cette image qui reste et ce doigt sur la bouche, et puis Hugo Lloris, peut-être moins, en tout cas c'est les arguments que j'entends. Sachez que vous êtes nombreux à voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Nous marquons, c'est une petite pause dans ce bras de fer qui va démarrer de nouveau dans quelques instants. Vous allez pouvoir de nouveau avoir d'autres arguments pour tenter de faire pencher la balance. La team légende, même si Pascal se défend bien et Sarah va venir dans quelques instants à son cours.
On va les manger.
Mais la team légende est à 70%. Vous chutez un petit peu, 30%. Pour la team, pas légende.
Tu parles d'une chute.
On débat encore pendant 2 heures et on est devant. Hein. Encore 2 heures de débat et c'est
bon. On gagne 2% à 0. En fait.
70, 30. Pièce à conviction. Hugo Lloris. Je vous propose de l'écouter. Aussi. Hugo Lloris a parlé, évidemment, de ce chiffre. 142 sélections pour lui. C'était en conférence de presse. Écoutez.
C'est pas rien et je suis très honoré de ces chiffres, très fier. Même si à l'aube d'un 8e de finale de Coupe du Monde, ça reste bien évidemment secondaire. À mes yeux, cette compétition passe avant tout. Et j'ai envie de garder tout mon focus, toute mon énergie pour le match de demain. C'est quelque chose certainement que j'apprécierai davantage une fois la compétition terminée.
Hugo Lloris en conférence de presse.
C'est la modestie de Hugo.
Il a le sens du collectif. Il a le sens du collectif dans un sport collectif.
C'est plutôt pas mal, ouais. Et c'est rare.
Et c'est quand même de plus en plus rare aujourd'hui. Alors, on parle de 142, mais il porte le brassard de capitaine depuis des lustres. Il a 118 brassards de capitaine. Loin devant Didier Deschamps. Donc, en fait, pour que ça rentre dans la case légende, il faut que ça marque son sport. C'est ça la définition. Il faut que ça marque un imaginaire collectif. Il va le marquer. Mais qu'il soit sous-coté, je pense qu'on est un peu tous d'accord, qu'il est sous-coté, même Fabien Barthez dit de son compatriote avec qui il s'entend très bien, que Lloris est un petit peu sous-coté. Mais cependant, parce qu'il est sous-coté, on ne peut pas lui attribuer le mot légende sur le fait qu'il est au sein de cette équipe de France depuis plus de 142 sélections à venir, c'est-à-dire que ça, je lui souhaite que ça augmente, il a fait 61 matchs sans encaisser de but, il a ses fameux brassards de capitaine, et parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui parle peu, mais qui est énormément écouté dans son univers, on doit lui enlever le synonyme ou l'adjectif de légende dans son sport. Mais t'as différentes légendes.
Tu mettrais qui dans le club des légendes? Parce que allons-y, balançons tous les joueurs qui ont marqué,
t'as des Zidane, t'as des Copa, donc tu veux tu vas parler.
Donc voilà, ok.
Benzema aujourd'hui avec un Ballon d'Or, c'est une légende du foot français.
Ok, donc lui, tu le mets au même niveau. Deschamps.
Bah évidemment Deschamps, oui, okay. Tu peux mettre Deschamps.
Le club des légendes, c'est une maison close. En fait, tout le monde rentre dans cette légende.
Non, pourquoi tu dis ça? T'as une dizaine de légendes.
Thierry Henry, tu le mets.
Bien sûr, tu mets Thierry Henry.
Giroud,
Giroud aussi. Mais à partir du moment où tu as des stats qui sont incomparables, tu marques quelque chose.
Je trouve que le mot légende est galvaudé si tu mets tout le monde dedans. Enfin, ce sont évidemment d'immenses footballeurs. Mais je suis désolé. Des légendes, c'est un club qui rassemble 4 ou 5 joueurs, pas plus. Quoi.
Mais qui dit ça à toi? La définition des légendes, c'est vous qui l'avez? C'est vous seul qui avez la définition.
Regardez sur un dictionnaire ce que ça veut dire.
Mais oui, justement, c'est ce que je te dis. Définition des légendes, je vais te lire. Définition des légendes, je l'ai tapé justement. Par rapport à une personne, c'est quelqu'un qui se conserve dans la mémoire collective. Je vois pas pourquoi on va pas conserver dans la mémoire collective Hugo Lloris.
Le mec qui m'aura succédé, j'espère avant 20 ans, fera des c'était mieux avant, consacré à Lloris plus qu'à Mbappé, plus qu'à Benzema.
Il en fera.
Que dans 20 ans, on parlera encore avec
Mais pas plus, mais pas moins.
Du Hugo Lloris, on dira
il entre dans la mémoire collective par ce record de longévité, pour reprendre ta définition. Pas parce qu'il a fait, c'est parce que justement il dure et qu'il est allé chercher ce record. Mais s'il n'avait pas ce record, malheureusement, il serait moins dans la mémoire collective.
Et puis Jean-Louis, ce délire de 142 sélections, oui, c'est exceptionnel. Mais il n'y a pas de concurrence sur le poste de gardien de but. Hugo Lloris, c'est devant tout le monde.
Parce qu'il a écarté la concurrence.
À l'époque, Barthez, t'avais Martini, t'avais des mecs qui se battaient. Il n'y a pas de très très bon gardien de très haut niveau sur les 142 sélections du Hugo Lloris. Qui aurait pu contester cette hégémonie du Hugo Lloris en équipe de France?
Comme on ne contestait pas celle de Fabien Barthez non plus.
Fabien Barthez, il s'est gagné sa place. Hein.
Comme Hugo Lloris. Il y a eu Stephen Mandanda aussi à un moment.
Il a écarté la
concurrence.
Il y a eu un peu plus de concurrence avec Lama au début.
C'est une légende alors dans ces cas-là.
Pardon?
Stephen Mandanda, c'est une légende.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent, les spécialistes foot, qui considèrent que Maignan, par exemple, est aujourd'hui un meilleur gardien.
Mais Maignan, le gardien du monde.
Je vais demander à Pascal et à Jean-Louis, qui sont spécialistes, est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
Non mais
il est blessé en plus.
Comment dire, Lloris, il est victime d'un déficit d'image parce qu'il est gardien de but, ça c'est la première des choses, et parce qu'il est lisse. Ne dites pas que ses performances. Non mais Christophe, en demi-finale de Coupe du Monde en Russie, il réalise un arrêt remarquable contre la Belgique. Tu l'oublies?
Mais
grâce à lui, nous avons un deuxième titre aussi. C'est pas uniquement grâce à ses coéquipiers quand même.
Et puis ce rôle de gardien de but, de dire parce qu'il est gardien. Enfin, t'as des mecs comme Thibaut Courtois, comme Manuel Neuer, qui ont ces postes-là et qui sont quand même iconiques et légendaires dans le foot mondial. Donc on va pas juste dire parce qu'il est gardien.
Tu sais quoi,
interroge la confrérie des gardiens de but mondiale. Demande à tous les gardiens de but de sélection nationale ce qu'ils pensent de Hugo Lloris. Ils diront tous que c'est un super gardien.
Est-ce que c'est encore le meilleur gardien au monde? Pascal, est-ce qu'il l'a
Hugo Lloris, il n'a jamais été le meilleur gardien au monde.
Il y a peut-être eu une saison ou deux quand même. Non,
Hugo Lloris, il a été pendant deux ou trois saisons meilleur gardien au monde.
Oh, t'exagères, Pascal.
Et, non mais Hugo Lloris,
en U12 peut-être.
Aujourd'hui, 142 sélections. Et quand, encore une fois, je l'espère, pour que définitivement vous l'inscriviez, vous le hissiez au niveau de légende, j'espère qu'il va être le deuxième. Pour la deuxième fois, il va brandir la coupe.
Mais ça changera pas
deuxième
mon avis. Fois,
capitaine.
Bah, ça changera pas
ton avis.
Bah non,
on l'espère aussi.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que ça
change ton avis? Pour qu'il fasse attention.
Pour qu'il marque un but. Alors, s'il marque un but à la 92e minute de la finale, qu'il nous a fait gagner.
Attention,
si on la gagne deux fois, je revois mon jugement. Là, le débat, c'est sur les 142 sélections. Est-ce que c'est parce qu'il a 142 sélections que ça devient une légende du foot français?
Il est peut-être pas iconique, mais il est une légende.
Écoutez-vous, s'il vous plaît, tout le monde, tous ensemble. Mais non, alors franchement, je vais trop passer le débat.
Ah, tu vas recommencer là, il va nous faire sans la une.
Mais non, mais c'est insupportable.
C'est bon, on a compris.
Les copains, faites l'émission pour tout le monde, pas que pour nous. Voilà, Jean-Louis nous apportait un point de détail qui était important, qui nous disait, je veux bien réviser mon jugement à l'issue de la Coupe du Monde. Voilà, je veux bien. Ok.
Donc pour toi, Jean-Louis, t'es d'accord avec moi que c'est limite. C'est ton genre.
Non, moi je dis juste que c'est pas parce qu'il a les 142 sélections qu'il devient une légende du foot français. Il faut d'autres choses pour le devenir. Et s'il participe une deuxième fois à une victoire en Coupe du Monde en étant acteur majeur, je reverrai mon jugement.
Ok, via le Direct Studio, il y a Stéphanie qui nous dit pour être une légende, il ne faut pas être en exercice. Non, je crois que c'est Stéphanie Lyonnaise.
Ah,
donc,
peut-être,
c'est pas faux.
Il faudra
Sur Mbappé. Je pense qu'Mbappé, on peut. Voilà.
Il faudra reposer la question dans 15 ans. On verra si son nom ressort.
On sera là pour la reposer. Oui.
Certainement, mais à ce jour, pas une légende.
Voilà. Est-ce que Christophe sera là dans 15 ans pour reposer la question?
Est-ce que je serai une légende, moi, dans 15 ans? Est-ce que tu me considéreras comme une légende?
Ah, une légende de grande gueule du soir, je pense qu'il n'y a pas débat.
Oui. Non, là, il n'y a pas débat. Là, on est tous d'accord.
Parce que tu as combien de caps, toi? Parce que là, on peut parler de caps.
142, c'est de la gnagnotte à côté.
Est-ce qu'il y a des moments iconiques de Christophe Sessieux dans les grandes gueules du
soir? Oh, oui. Aussi. Oui.
Tu rigoles quelque chose dans le
On me dit des choses dans le casque, mais je ne peux pas tout répéter évidemment. On s'arrêtera. C'était mieux avant. C'est déjà évidemment entré dans la légende.
Exactement. Et moi, je vais vous parler d'une légende dans quelques instants. Une vraie légende du sport français et du football français. La première légende du sport français.
Exactement. Merci beaucoup Jean-Louis Tour d'avoir été avec nous ce matin dans
avec
les
plaisir.
GG du sport.
Oh, Jean-Louis,
on se retrouve à partir de 15h.
À partir de 15h exactement, en direct du stade Al Toumama de Doha, ça va être le feu. L'avant-match pendant une heure, le match en intégralité avec Jeannot Rességuier, Arthur Perrault et Jérôme Rotten au stade. Et ensuite le débrief jusqu'à une heure du matin.
Tu as peur un peu ou non?
Super.
Tu as peur de la Pologne ou non?
Ah, moi j'ai toujours pas peur, mais bon. Si vous voulez, je peux faire semblant. Hein.
Jean-Louis, tu veux le résultat du vote ou pas? Ou tu penses que t'as
perdu? Ah oui, alors on a gagné de combien?
On a perdu. On a reperdu tous les points qu'on avait.
Je suis allé voter.
Extrêmement serré. Vous êtes des milliers à avoir voté sur le compte Twitter des grandes gueules du sport.
Vas-y.
71-29.
Ah bah on est remonté.
Ah ouais, c'est vachement serré.
Un petit peu. Il y a Pascal qui a su se servir d'un compte Twitter qui s'inscrit et qui a voté.
Non mais Jean-Christophe, c'est vachement serré. Franchement, tu es d'une objectivité ce matin. Bravo. Bravo Jean-Christophe. 71-29 serré.
Tu me connais parfaitement, c'était ironique, mon cher Pascal. 11h27, on se retrouve dans quelques instants. C'était mieux avant le bonbon historique de Christophe Sessieux. Raymond Coppa, à tout de suite.
C'est les grandes gueules du sport, spéciale Coupe du Monde.
Jean-Christophe Drouet.
Tous derrière notre équipe de France pour ce 8e de finale France-Pologne à 16h. C'est l'événement sur RMC, l'événement évidemment de cette Coupe du Monde. Hier, deux équipes se sont qualifiées pour les quarts de finale. L'Argentine, les Pays-Bas qui s'affronteront vendredi soir pour une place en demi-finale. Mais d'abord, on se délecte avec ces 8e de finale. À 20h, Angleterre-Sénégal, le vainqueur de France-Pologne affrontera ce vainqueur d'Angleterre-Sénégal. À suivre également sur RMC, une journée magnifique au rythme de notre équipe de France. Dans une dizaine de minutes, c'est à vous de jouer. Les auditeurs, vous composez le 32-16. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG. Il y a eu des débats absolument exceptionnels. Quand je repense à ce débat sur Hugo Lloris qui a été de très bonne facture, le débat sur la peur aussi, à 9h, faut-il avoir peur de la Pologne? Mais peut-être qu'on retiendra surtout ce débat absolument exceptionnel à 10h sur Kylian Mbappé et la phrase de Szczęsny, un débat qui a été vraiment époustouflant.
Donc il faut écouter le podcast, quoi.
Il faut écouter le podcast parce que vraiment ce débat a été incroyable. C'est l'une des premières fois où je me dis waouh, on a fait de la grande radio. Donc n'hésitez pas à nous écouter. C'était à 10h à télécharger le podcast. Mais pour l'heure, tous les dimanches, Christophe Sessieux nous compte un moment d'histoire.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les amants français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Il y a 64 ans, Raymond Coppa devenait le premier français de l'histoire à gagner le Ballon d'Or.
Il est un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître, ou uniquement par l'intermédiaire de la musique. 1958, au moment où le général de Gaulle revient au pouvoir, à l'heure où Eddie Cochrane appelle tout le monde à danser, un footballeur français se pare d'or et de gloire. En décembre de cette année-là, le magazine France Football remet pour la troisième année consécutive son tout jeune trophée, une magnifique sphère en forme de ballon de football revêtu de feuilles d'or. Après l'anglais Matthews et l'argentin Di Stefano, vedette du Real, c'est un autre joueur du club madrilène qui se voit remettre la récompense, un Français nommé Raymond Coppa.
Qu'il porte le numéro 7 au poste d'ailier droit ou le numéro 9 qui désigne l'avant-centre, il semble parfois que la foule ne s'intéresse qu'à lui. Sur le terrain, il est le pôle d'attraction. S'il enchante, l'écho de son nom retentit sans fin dans le stade. Pour des millions de Français, il est le symbole même de la popularité. Personne ne contestera jamais son admirable technique, sa couverture de balle, ses feintes qui déconcertent et l'adversaire et le public. Sa clairvoyance, sa virtuosité d'autant plus incompréhensible qu'il semble toujours lancer un défi aux lois de l'équilibre.
Un portrait pour le moins élogieux, dressé par Robert Chapat, mais un portrait fidèle de ce garçon qui, à l'époque, est même comparé à Napoléon. Oui, Coppa est une star, au même titre qu'un Anquetil ou un Cerdan décédé quelques années plus tôt. À une époque où les stars du sport français se comptent sur les doigts d'une main, Coppa est un modèle. Un garçon que rien, pourtant, ne destinait à la gloire. Fils d'immigrés polonais, Raymond Kopaszewski, c'est son vrai nom, grandit au pied des terrils à Neulémine, dans le Pas-de-Calais, où son père et son frère exercent le difficile métier de mineur. Une profession à laquelle le jeune homme ne semble pas, lui non plus, pouvoir échapper. À 14 ans, certificat d'études en poche, il est donc envoyé, comme les autres, dans le fond, pour gratter le charbon.
Comme beaucoup de jeunes, dans le Nord, nous n'avions qu'une issue, c'est la mine. Et j'ai eu trois années difficiles. Trois années où je travaillais à 612 mètres de fond, bien souvent dans la poussière, dans l'eau. C'est un travail horrible. Mais enfin, on s'habitue à tout.
Si Coppa s'habitue, le jeune nordiste a d'autres rêves et une passion. Le ballon rond, ça tombe bien, le stade de Neulémine jouxte la maison familiale.
Je n'avais qu'un jambe et un mur pour me retrouver dans le stade. C'est-à-dire que de l'âge de 6 à 10 ans, j'étais pratiquement sur le terrain de Neulémine. Je me souviens très bien de cette époque où nous avions tous, les jeunes à cette époque-là, un œil sur le ballon et un œil sur le garde. Parce que nous étions coursiers, nous étions interdits à cette époque-là d'utiliser les installations de l'US Neulémine. Ce qui nous a permis de progresser sur le plan clairvoyance, de regarder sur le ballon et à la fois le garde. On s'est bien souvent retrouvé dans l'arbre aussi, et le garde en dessous. Et dès l'âge de 10 ans, j'ai signé ma première licence à l'US Neulémine.
Et le garçon est doué. Si doué qu'après quelques années seulement, il est sélectionné pour le concours du jeune footballeur qu'il termine à la deuxième place, attirant par là même le regard des recruteurs du SCO d'Angers, plus malins que les équipes nordistes, qui n'ont vu en Coppa qu'un joueur trop petit, trop malingre. À 18 ans, Raymond quitte donc sa région et s'installe dans le Maine-et-Loire où il débute sa carrière en deuxième division. Son talent est tel que deux ans plus tard, le Stade de Reims vient le chercher pour l'intégrer à l'équipe qui monte, celle des Jonquiers, Marche et autres Panvernes. Le nouvel assemblage ne va pas tarder à faire des flammes grâce à la vision du jeu de Coppa et ses talents de dribbleur. Reims entame sa domination et Raymond ne va pas tarder à goûter aux joies du maillot de l'équipe de France avec lequel il dispute sa première Coupe du Monde en 54. Un galop d'essai pour les Bleus et leurs meneurs éliminés dès le premier tour, mais qui un an plus tard va se révéler aux yeux du grand Real Madrid lors d'un match dans la capitale espagnole où les Bleus de Coppa réalisent un exploit impensable en battant la Rora de Buzyn.
L'Espagne, c'était un match où on n'avait encore aucune chance. L'équipe, le journal, mettait en évidence que nous avions perdre avec 3 ou 4 buts de différence. Heureusement, nous avions un entraîneur à l'époque qui s'appelait Albert Batteux. C'était la première sélection de cet homme qui a fait toute sa préparation en nous montrant le titre de l'équipe. Ça nous a concentrés plus. Et là, je peux dire peut-être que c'est mon meilleur match de ma carrière. C'est là qu'il y avait un journaliste anglais. Il m'a désigné comme le Napoléon du football.
Et le nouveau Napoléon ne va pas tarder à voir l'Espagne de plus près. Le Real le veut, et ce malgré une loi interdisant le recrutement de joueurs étrangers. Loi étonnamment abrogée quelques jours seulement avant la signature de Raymond. Mais avant de porter le beau maillot merengue, il reste une formalité à remplir. La première finale de la Coupe d'Europe des clubs champions qui oppose le 13 juin 1956 dans le Vieux Parc des Princes, le Real à Reims. Un match particulier pour Copa dont le futur transfert en Espagne dérange et inquiète. Va-t-il vraiment jouer le jeu du stade de Reims? Pour mettre fin aux polémiques, Raymond dispute la rencontre avec une cheville dans la boîte à gants, comme l'explique son coéquipier de l'époque, Michel Hidalgo.
Il a joué parce que c'était la finale, mais il n'aurait pas dû jouer. Il avait mal à une cheville. Il a joué parce que c'était délicat du fait qu'il allait jouer en Espagne par la suite. On aurait cru que c'était parce que c'était son futur club qui ne jouait pas. Non, non, il était réellement blessé et c'était délicat pour jouer pour lui.
Et avec un Denis Copa, impossible de rivaliser avec la belle machine blanche qui s'impose 4-3. Une déception vite effacée pour Raymond qui intègre alors les rangs de la meilleure équipe du monde.
Je quittais la deuxième meilleure équipe d'Europe pour me retrouver dans la meilleure équipe du monde. Et la chance pour moi, c'est de retrouver des joueurs de la classe des Di Stéfano, Puskás, Rento à l'époque. Et pour moi, ça a été vraiment trois années fantastiques.
Trois saisons de feu durant lesquelles Copa décroche deux titres de champion d'Espagne et surtout trois coupes des clubs champions. Un palmarès énorme qu'il va encore enrichir en 1958 avec les Bleus cette fois-ci. Écarté durant deux ans des rangs de l'équipe de France pour avoir osé trahir le pays en partant en Espagne, Albert Batteux décide contre vents, marées et campagnes de presse de le réintégrer. François Thébault, à l'époque journaliste à Miroir Sprint, le concurrent du journal L'Équipe, se souvient.
L'Équipe avait pris position contre l'incorporation de Copa dans l'équipe de France à partir du moment où il jouait au Real Madrid. L'Équipe a publié une pleine page dans laquelle ses rédacteurs prenaient position pour ou contre Copa, et je me rappelle qu'une majorité s'était prononcée contre l'incorporation de Copa dans l'équipe de France.
Mais le sélectionneur ne va pas regretter son choix. Les Bleus débarquent en Suède le 20 mai, l'esprit tranquille, sans pression apparente. Paul Nicolas, le sélectionneur, et Albert Batteux, l'entraîneur, vont pourtant les faire bosser comme des fous, mais en leur laissant quelques plages de loisirs très appréciées. À l'époque, ni PlayStation, ni tablette, mais des cannes à pêche et un tourne-disque. Jean-Vincent faisait partie de cette aventure.
Je crois que c'était Justo Fontaine qui avait amené un tourne-disque, et puis on chantait les succès du moment, quoi. Non, mais je me rappelle quand même qu'il y avait Buonasera, et sans arrêt on chantait ça, et puis bon, bah, c'est des chansons, des fois à la radio j'entends ça, tout de suite je pense à la Suède.
Et des Buonasera, des bonnes soirées, les Français vont en vivre un paquet en Suède. Une aventure qui débute face au Paraguay, considéré à l'époque comme le quasi-égal du Brésil. Les Paraguayens subissent la foudre des Copa et autres fontaines, score final 7-3. Après une courte défaite contre la Yougoslavie, les Bleus se rachètent et se qualifient pour les quarts de finale en battant l'Écosse 2-0. Leurs adversaires suivants, les Irlandais du Nord, ne font pas le poids eux non plus, dominés 4-0 par la bande à Copa.
Pour nous, ce match-là,
on le prenait vraiment avec une telle facilité, avec l'esprit libre, que finalement on a gagné 4-0 facilement. C'est certainement le match le plus facile qu'on ait joué de cette Coupe du Monde. C'était le quart de finale.
La France se découvre alors une nouvelle passion pour cette équipe. Les ventes de téléviseurs, denrées rares et coûteuses à l'époque, font un bond de 20% en quelques jours. Le président de la République, René Coty, suit les matchs depuis l'Elysée. Et l'enthousiasme des foules grandit encore avec la révélation du nom de l'adversaire pour les demi. Ce sera le Brésil et ses génies du ballon, les Didi, Garrincha, ainsi qu'un tout jeune homme de 17 ans, nommé Pelé. La tâche s'annonce périlleuse pour Copa et ses copains. Il est 19h ce 24 juin 1958. 27 000 personnes ont pris place dans le stade de Solna, en banlieue de Stockholm, alors qu'en France, 8 millions de téléspectateurs et plus encore d'auditeurs s'apprêtent à suivre la rencontre. Une partie qui s'engage très mal pour les Bleus. Dès la deuxième minute, Vava inscrit le premier but brésilien. Mais les Français ne renoncent pas. Et 7 minutes plus tard, Justo Fontaine, le goléador des Bleus, inscrit le plus beau but de sa carrière.
Copa descend, va de la passe, passe bien, de la fontaine qui précipite à la base.
Les Bleus tiennent la dragée au taux virtuose brésilien qui parfois aussi savent se transformer en boucher à la demi-heure de jeu. Robert Jonquet est victime d'un attentat de Vava.
Pas un accident de jeu, parce que Vava, c'était la troisième fois qu'il faisait le même geste. Les deux autres fois, il était passé à côté. Cette fois-là, il a attrapé la jambe au passage.
Et voilà Jonquet qui sort du vestiaire. Jonquet boite. Va-t-il tenir sa place sur le terrain ?
Le règlement interdisant à l'époque tout remplacement, c'est avec une fracture du péroné que Jonquet va disputer la suite de la partie. Et avec le patron de leur défense sur une jambe, les Bleus vont boire la tasse, encaissant 4 autres buts, dont 3 signés de celui que l'on surnommera bientôt le roi du football. Les Bleus s'inclinent 5 buts à 2 et devront patienter 28 ans avant de prendre leur revanche face à la Seleção en Coupe du Monde, un beau jour de 86. En attendant, les hommes de Bateux ont un dernier rendez-vous dans ce mondial pour la 3e place face à l'Allemagne, championne du monde en titre, qui ne va y voir que du bleu et subir l'une des plus grosses dérouillées de son histoire, battue 6 buts à 3 dont un quadruplé signé Justo, qui termine la compétition avec 13 unités au compteur, record qui 64 ans plus tard tient toujours.
Je vous allez assister encore un exploit de Fontaine sur une passe de Wisniewski. Fontaine dribble un adversaire et s'en va tout seul. Il est absolument irrésistible, inarrêtable.
Quant à Coppa, véritable enchanteur de cette Coupe du Monde, il est désigné meilleur joueur de la compétition et reçoit quelques mois plus tard le Ballon d'Or. Une année magique pour le Napoléon du football français qui, après un troisième et dernier titre européen remporté avec le Real face à Reims, rentrera au pays et en Champagne en 1959. Sa carrière s'achèvera bien des années plus tard, avant que petit à petit les trompettes de la renommée ne s'estompent. Mais personne n'oubliera jamais ce joueur hors norme. Pour les plus anciens, Coppa reste le modèle absolu. Un footballeur délicieux, doublé d'un homme au caractère bien trempé, un redoutable négociateur, aussi doué en affaires que ballon au pied. Un petit grand homme d'1m69, destiné à la mine, mais qui en fin de compte aura récolté tout au long de son existence bien plus d'or que de charbon.
Raymond Coppa, raconté par Christophe Cessieux. Raymond Coppa, ce match France-Pologne lui va si bien, lui la star des Bleus d'origine polonaise. Merci beaucoup Christophe. Sarah, tu as écouté attentivement Pitkowski, cette histoire.
C'est un peu Kopaszewski, hein, ça ressemble.
Oui. Ce parcours évidemment de Raymond Coppa qui vient du Nord également, comme toi, beaucoup de similitudes. J'imagine que ça t'a marqué aussi dans ton enfance, cette histoire de Raymond Coppa.
Oui, ça a marqué parce que aujourd'hui, et l'histoire est souvent bien faite, aujourd'hui on fête la Sainte-Barbe, et en fait c'est la patronne des mineurs qui est fêtée en Pologne et qui est fêtée dans le Nord, et notamment au RC Lens. Le RC Lens est infusé depuis son histoire avec l'immigration polonaise, cette immigration de Polonais et de Polonais qui sont devenus Français et qui sont venus dans un premier temps pour travailler dans les mines, et beaucoup d'entre eux jouaient au football. Et donc en fait cette région de France et le RC Lens fête chaque année cette fête, la patronne des mineurs, et l'histoire est bien faite, hein. France-Pologne, des Polonais naturalisés français qui ont porté les couleurs de l'équipe de France, il y a eu Raymond Coppa, mais il y en a eu d'autres aussi, et je trouve que l'histoire est bien faite. Il y a donc 500 000 Français d'origine polonaise dans le Nord qui aujourd'hui vont regarder le match et qui, quoi qu'il arrive, vont être heureux d'avoir une des deux équipes en quart de finale. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire de la France et de l'équipe de France.
Et quand tu racontais cette histoire de Raymond Coppa, me venait en tête une anecdote où j'ai eu la chance de le rencontrer, où il était sur le plateau d'une de mes émissions. Et on dit souvent, oui mais Coppa, oui mais Pelé, oui mais je les ai jamais vus jouer. Alors peut-être un peu moins vrai pour Pelé qui a ce mythe autour de lui. Et en fait, je me suis retrouvé en face de Raymond Coppa et je me suis dit, je n'avais jamais vu jouer, évidemment, mais je me suis dit, vache, j'ai Raymond Coppa en face de moi. Parce que c'est un nom, parce que c'est une histoire, même si on ne la connaît pas particulièrement.
Même si tu n'as pas vu ses matchs, tu as vu des choses sur lui.
Et on arrive, c'est dans l'imaginaire collectif, on arrive à être impressionné par quelqu'un que l'on ne connaît pas au final et que l'on n'a jamais vu jouer. Pascal Duprat sur Raymond Coppa.
Ça contribue à une des premières fois où un joueur français s'exporte et va jouer au Real Madrid, donc ça fait partie, voilà, le mythe Raymond Coppa, c'est aussi ça, par-delà son talent, par-delà ce qu'on en a su, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'images à l'époque. Donc, en fait, le mythe, il s'est construit pour que, incontestablement, Coppa soit hissé au rang de légende. C'est une légende du football français, incontestablement.
France-Pologne, c'est le match à 16h. Évidemment, on pensera aussi très fort à Raymond Coppa pour ce huitième de finale de la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Christophe. Tous les 7 et mieux avant à retrouver en podcast. Allez-y, à chaque fois, c'est un bonbon. Merci beaucoup, Christophe. 11h47, on se retrouve dans quelques instants. Le 32-16, venez affronter une GG sur un thème du jour. À tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, spéciale Coupe du Monde.
Jean-Christophe Drouet.
11h50 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Stephen Brun et vous les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Un peu d'expérience dans cette émission, ça nous fait du bien. Vous venez affronter une GG. On accueille Wassim qui a 10 ans, l'expérience évidemment. Bonjour Wassim.
Bonjour.
Salut Wassim.
Merci d'être avec nous Wassim. C'est très Bonjour. Courageux de nous appeler. Tu veux t'attaquer à qui ce matin? Tu veux nous dire quoi? Dis-moi.
C'est par rapport déjà au sujet d'Hugo Lloris.
Ok.
Déjà, tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je sais que avec mon papa, nous sommes des fidèles auditeurs de RMC.
Ah, c'est gentil, merci beaucoup, Wassim, merci. Sur Hugo Lloris, pour toi, légende ou pas légende? Alors, dis-nous.
Pas légende.
Bravo.
C'est un excellent gardien, effectivement. Il a gagné la Coupe du Monde, mais au point de dire légende, c'est un peu exagéré pour moi, en fait.
Ok.
Bravo, Wassim.
Exagéré.
Wassim, parfait.
Pourquoi est-ce que, alors, souvent, ce qu'on pourrait te répondre, parce qu'un jour, tu feras partie des grandes gueules, c'est sûr. Ce qu'on va te répondre, c'est « Ah oui, mais tu n'as que 10 ans, donc tu ne l'as pas beaucoup vu jouer, tout ça. » Toi, quand tu le vois jouer, c'est pas un des joueurs qui te fait vibrer. C'est pour ça que tu nous dis ça?
Oui, c'est vrai qu'il a gagné la Coupe du Monde, mais pour lui, il faut qu'il la fasse gagner, surtout pour son équipe.
Pascal, tu veux lui répondre à Wassim? Tu veux vraiment asséner un coup? Vraiment? Non, on va le laisser tranquille.
Non, mais c'est bien, c'est courageux de sa part. Il a 10 ans. On appelle ça communément les minorités agissantes. Donc, comme tu n'avais que 30%, tu fais partie des 30% d'auditeurs qui n'étaient pas d'accord avec nous. Et
je respecte. Il est méchant, même avec les choix, enfants, bravo. Ce Pascal.
Non, pas du tout.
Il les mange.
Pas du tout. Il montre qu'il est courageux.
Il les mange.
Surtout Pascal, il a besoin de lui dire que le Père Noël.
Non, il est extrêmement courageux et c'est bon signe pour l'avenir de notre pays.
Merci.
D'avoir ce courage-là. Bravo.
Wassim, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu embrasses aussi très fort ton papa.
Une légende, pour moi, c'est gagner des titres majeurs, plusieurs titres. La Ligue des Champions, l'Euro, les titres nationaux.
T'as raison,
et pour
Wassim.
L'instant, Lloris n'a rien gagné de tout ça.
Le problème, c'est qu'avec Tottenham,
une Coupe du Monde. Ouais.
Avec Tottenham, il n'a pas gagné grand-chose, malheureusement.
Wassim, dis-moi, sache que tu sais où on est, tu sais comment ça se passe. Quand tu auras besoin de faire un stage un peu plus tard, n'hésite pas à nous appeler et tu viens nous voir. D'accord, Wassim?
Okay.
Et on arrange ça. Enfin, ça fait plaisir. Bien sûr, moi, je veux pas te forcer.
T'auras Stephen et Christophe comme tuteurs.
Ouais, c'est sûr qu'il n'aura pas JC parce qu'il est parti en vacances 8 mois sur 12. Donc, ça, sûrement, Christophe et moi qui seront là.
C'est sûr, Wassim, choisis bien ta semaine. Merci, Wassim, et à bientôt sur RMC. On t'embrasse et allez les Bleus, évidemment. Tu vas suivre ce match de notre équipe de France. Xavier nous appelle également. Bonjour, Xavier.
Salut, les GG.
Merci d'être avec nous, Xavier. Oui, tu as quel âge? Tu as plus de 10 ans.
Ça peut être pour un stage, Xavier.
Je veux bien venir en stage, même si j'ai plus de 10 ans, il n'y a aucun problème.
Parfait. Mon cher Xavier, tu veux affronter qui ce matin?
En fait, non, je voulais venir à ton soutien, j'y sais, parce que j'ai trouvé que les GG avaient abusé un peu en te maugréant sur ce débat que tu as voulu faire vis-à-vis de Chesney et ses déclarations vis-à-vis de Mbappé.
Moi, je
trouve que c'est pas bête comme
idée. Il t'a envoyé un chèque ou quoi avant que tu appelles?
Tu joues au golf avec lui tous les mercredis?
Non, j'ai un swing pas trop terrible, donc je ne joue pas au score.
Xavier, merci de me défendre. Et vas-y, donne des arguments que je n'ai pas su trouver pour justement renverser le débat.
Eh bien, en effet, moi, je trouve que c'est plutôt même intelligent de la part de Chesney, parce qu'on sait que Mbappé fait partie de ces surdoués où il y a deux catégories. Les gars comme Messi qui sont taiseux et qui font tout sur le terrain et des gars comme Ronaldo qui sont bouffis d'orgueil et qui ont besoin derrière de prouver quand ils se sentent attaqués. Et on sait très bien que Mbappé a beaucoup d'ego, ce qui est normal, ce qui est justifié, et que des fois, au contact de Neymar, on a pu s'apercevoir qu'il pouvait être amené à en faire trop. Et donc avec ces déclarations, Szczęsny pourrait très bien rentrer dans la tête de Mbappé, celui-ci voulant derrière démontrer que il est plus fort que tout, que c'est pas ce petit gardien polonais qui va l'impressionner, et qu'il pourrait perdre un petit peu le jeu collectif, qui est plutôt pas mal qu'il a avec l'équipe de France et l'appui que fait Giroud, et vouloir à tout prix marquer son but, ou bien plusieurs, et dans cette défense qui est composée de 6 individus, il pourrait s'enferrer et être beaucoup moins productif. Donc je trouve que ce débat n'était pas si con que ça.
Merci. Et franchement, j'aurais jamais pu l'exprimer aussi bien. Merci
non,
beaucoup.
Non, pas si con que ça.
Non,
enfin, tu vois, il y a quand même la pointe de...
Non, il a non non pas du tout, je pense qu'il a totalement raison et bravo et on va le refaire ce débat la semaine prochaine d'ailleurs.
Ah non.
Voilà. Si c'est promis. Merci beaucoup Xavier.
Merci Xavier Drouet.
Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup les auditeurs d'avoir été avec nous ce matin pour ce jour magnifique avec l'équipe de France qui joue son 8e de finale à 16h face à la Pologne. Merci Christophe Cessieux, merci Pascal Duprat, Stephen Brun, Sarah Pitkowski et comme d'habitude, je remercie Pierre Amiche à la production, Alban Azaïs à la réalisation et TF1 évidemment.
Midi 13h, les paris RMC.